Alors, pour ceux qui n'étaient pas là durant le mois d'août, on avait des devoirs d'été. C'était de lire le livre d'Esdras. Et puis, si on avait le temps, de continuer sur Néhémie. Et pourquoi pas Agée, Zacharie et Malachie. Voilà, donc un travail de lecture et puis de méditation du texte. Donc, durant tout ce mois d'août, nous avons médité sur le chapitre 1 et le chapitre 2 d'Esdras. Et puis, on va continuer sur le chapitre 3 ce matin. Voilà. Donc, vous allez avoir le texte biblique que nous allons lire affiché. Il est déjà là. Voilà. Nous en sommes donc rendus au chapitre 3. Le livre d'Esdras est un livre qui nous raconte l'histoire d'un renouveau, d'une restauration, d'un nouveau commencement. Le peuple de Dieu, Israël, avait été amené en captivité dans l'Empire babylonien à la suite de son infidélité et puis conformément aux clauses de l'Alliance. Mais à cause de la miséricorde de Dieu et selon la promesse prophétique donnée par Jérémie, le peuple rentrerait dans son pays au bout de 70 ans. Et cela fut ainsi. Notre lecture d'Esdras avait pour but et a pour but de voir quels éléments ont contribué au renouveau du peuple de Dieu. Esdras n'est pas simplement de l'histoire ancienne, c'est aussi pertinent pour nous qui recherchons toujours à être renouvelés dans le Seigneur et par le Seigneur. Esdras 1 nous avait conduit à souligner la souveraineté de Dieu sur les temps et sur l'histoire des hommes. Dieu est non seulement souverain, mais il est aussi agissant dans l'histoire et il intervient au sein de l'humanité. C'est lui qui va réveiller l'esprit de Cyrus, il nous est dit au verset 1 du chapitre 1. Il réveille l'esprit de Cyrus pour autoriser le peuple de Judée à retourner à Jérusalem et à rebâtir le temple. C'est ainsi que le texte nous en parle. Et c'est lui aussi qui réveille l'esprit de tous ceux qui doivent revenir de l'exil. Cette vision de la souveraineté de Dieu sur les temps et sur l'histoire n'exclut aucunement la responsabilité des hommes. Avoir une vision juste du Dieu souverain, qui est, je dirais, sur le trône et en contrôle de toutes choses, est un élément important dans le renouveau dans nos vies. Esdras 2, qui est pourtant une liste peut-être un peu fastidieuse à lire, nous a conduit à considérer le rôle de la repentance dans le renouveau du peuple de Dieu. Sans retour sur soi devant le Seigneur, il ne peut avoir de retour dans le pays que Dieu a promis. Pour revenir à Jérusalem, il nous faut revenir au Seigneur. La repentance est une grâce, avions-nous dit, et une bonne nouvelle. Elle fait partie intégrante de l'Évangile. Si le Seigneur te conduit à la repentance, considère cela comme un effet de sa bonté. Face à la sainteté, à la vérité de la parole de Dieu et de notre Seigneur, le Saint-Esprit vient nous conduire et nous convaincre de péché, de justice et de jugement. On ne peut pas faire l'économie de la repentance si on veut vivre un renouveau dans nos vies. Esdras 2 nous a aussi conduit à reconsidérer notre vocation. Nous avions vu que le peuple de retour d'exil est composé en très grande partie de sacrificateurs et de nombreux serviteurs dédiés au temple, des chantres, des portiers, des servants. Et pendant 70 années, ces familles consacrées au service du temple n'ont pu accomplir leur vocation. De retour dans le pays, les voilà à nouveau dans le sens de leur vie, le sens de leur appel. Quand le Seigneur nous attire à lui, il nous fait découvrir et redécouvrir notre vocation ensemble, à savoir être un peuple de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu. Alors nous allons lire Esdras 3, c'est un chapitre qui est court, et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez, ouvrir vos iPhones si vous n'avez pas de Bible papier, ou de lire avec moi le texte qui s'affiche. Lecture de la parole de Dieu. Chapitre 3 du livre d'Esdras. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Tchozatak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoi qu'il eût à craindre le peuple du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffa des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Tchosadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils de Juda, le fils de Hanadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Et lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, ils célébraient et louaient le Seigneur par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de la maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Fin du chapitre 3. Les exilés sont maintenant arrivés dans leurs villes respectives. Ils ont commencé à s'installer. 2 mois après leur arrivée, arrive le septième mois. Le septième mois est un mois important dans le calendrier de la liturgie juive. C'est le mois où vont se dérouler les fêtes du nouvel an religieux, Rosh Hashanah. Eh oui, Rosh Hashanah, ça tombe le septième mois. Puis la fête du grand pardon, le Kippour, suivie de la fête des tabernacles ou la fête des cabanes, et se terminant par Simrat Torah, la joie de la Torah, une fête extrêmement joyeuse autour de la parole de Dieu. Et à l'approche des fêtes, au septième mois, le peuple se rassemble à Jérusalem. Et le texte nous dit comme un seul homme. Ceci pour souligner l'unité du peuple de Dieu qui désire se conformer en tout point avec la loi de Moïse. Aussi, les responsables du peuple, Josué le grand prêtre et Zorobabel le gouverneur, petit-fils du dernier roi de Juda, décide de rétablir l'autel des sacrifices sur ses fondations, c'est-à-dire à l'emplacement initial où il devait se trouver dans le temple de Salomon. Je vous rappelle, simplement pour qu'on ne soit pas hors contexte, que Jérusalem est une ville détruite, que le temple est complètement détruit, qu'il y a devant eux des ruines et des ruines, des amas de ruines. Tout avait été détruit et brûlé 70 ans auparavant. Et la première chose que le peuple de Dieu se fait lorsqu'il se réunit, ils construisent l'autel. Dans ce renouveau que vit le peuple de Judée, l'unité spirituelle se fait autour de l'autel. Alors bien que des responsables soient nommés, ce n'est pas autour d'eux que se fait la construction du peuple de Dieu. Josué et Zorobabel, ainsi que les autres responsables, sont certes importants, mais ils s'effacent devant la nécessité d'un socle, d'un fondement solide pour que se construise l'identité du peuple de Dieu. Et Paul va dire la même chose. dans sa lettre aux Corinthiens. Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Josué et Zorobabel ont été capables de s'effacer pour permettre au Seigneur d'être au centre de son peuple. Ce qui est fondamental dans une communauté, dans une assemblée, ce ne sont pas ses responsables. C'est la centralité de Jésus-Christ. Les responsables peuvent changer. Jésus-Christ ne change pas. Le rôle des responsables dans une communauté, c'est d'orienter les yeux, le cœur et la pensée de leur communauté vers Jésus-Christ. Ce n'est pas le peuple de Josué ou de Zorobabel, c'est le peuple de Dieu, le peuple de son pâturage, comme dit les psaumes. Ce n'est pas l'église d'un tel ou d'un tel, c'est l'église pour laquelle Jésus s'est livré par amour pour elle. Certes, les responsables sont donnés par Dieu pour le bien de la communauté locale. Et les ministères sont une grâce de Dieu. Merci à eux. Ils sont donnés par Dieu pour équiper l'église locale, pour que l'église locale puisse entrer dans sa vocation et rayonner comme corps de Christ. J'ai vu un mal lorsqu'on choisit son église locale en fonction de ses responsables. J'ai vu un mal lorsque les responsables d'une église locale développe un culte de la personnalité. J'ai vu un mal lorsque Jésus-Christ n'est plus le centre d'une communauté. Pour vivre un renouveau, il nous faut revenir au fondamental. Jésus-Christ est la pierre angulaire, il n'y en a pas d'autre. Pour vivre un renouveau, l'Église ne doit pas seulement compter sur ses responsables. Le peuple uni comme un seul homme. Le renouveau dans une communauté, c'est l'affaire de chacun, de tous. Pour que nous puissions vivre un renouveau dans notre assemblée, nous devrions pouvoir compter les uns sur les autres, revenir au Seigneur les uns et les autres, chacun personnellement. Il n'y a pas d'autre chemin. Dans un orchestre, il y a multiples instruments. Chacun suit la partition de son instrument, comme j'aurais aimé faire partie d'un orchestre étant jeune, en tout cas d'une fanfare à l'époque. Certains instruments sont instruments majeurs, mais chaque instrument a son importance dans l'œuvre musicale. Le chef d'orchestre, lui, il a la partition de tous les instruments, les faisant intervenir au bon moment, au bon tempo. Jésus-Christ est notre chef d'orchestre. Un petit clin d'œil aux jeunes, puisque le Seigneur nous a parlé pour les jeunes ce matin, « Garde ton cœur ». Le texte nous dit que les Lévites âgés de 20 ans et plus ont servi pour la construction. À quel âge doit-on s'engager ? À partir de quel âge ? Bon, les jeunes, je crois qu'ils sont encore les restes du mariage d'hier, peut-être. Mais il y en a certains parmi nous. L'unité de Dieu, du peuple de Dieu, est intergénérationnelle. Et chacun est appelé à s'engager et à servir le Seigneur. Bon, le peuple de Dieu, dirigé par Josué et Zorobabel, reconstruit l'autel sur ses fondations. Quelle est la fonction de l'autel ? La fonction principale de l'autel est de recevoir des sacrifices, et en particulier le sacrifice que l'on appelle l'holocauste perpétuel, c'est-à-dire un sacrifice sanglant d'un agneau totalement brûlé, matin et soir. Le système sacrificiel est un système qui a été voulu et demandé par Dieu. Pour vous en convaincre, nous allons lire Exode, chapitre 29, 38 à 43. On ne va pas lire tout le texte, on va lire juste simplement un petit morceau. « Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Dieu se rencontre sur l'autel. au moment du sacrifice perpétuel. Voici ce que nous dit le livre d'Exode au chapitre 29. Alors, lorsqu'on parle de sacrifice sanglant, les humanistes que nous sommes s'insurgent un petit peu. Parce que nous avons des réflexes d'hommes modernes face à ces actes sanglants. Les consciences du XXIe siècle ont été endormies face à la gravité du péché. D'une part, nous ne comprenons plus que nos péchés nous séparent de Dieu et nous mettent sous le poids de sa juste colère. Nous pensons que le problème, parce que nous voyons qu'il y a des problèmes, hommes du XXe siècle, nous pensons que le problème est avec nous-mêmes, qu'il faut s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, qu'il faut en terminer avec la culpabilité, que ce n'est pas notre faute, au fait. On ne comprend plus, on a oublié que nous sommes pécheurs et que c'est là notre misère et que notre plus grand besoin, c'est d'être en paix avec Dieu. Et d'autre part, l'homme occidental a intégré, ça je pense qu'il a vraiment bien intégré, que si Dieu existe, il est nécessairement le bon Dieu. Que son travail avec nous, c'est de nous prendre soin de nous. Que son job est de nous pardonner, de nous consoler, de nous donner bonne conscience, sans rien remettre en question sur la manière de vie. À la place du père fouettard des siècles passés, nous avons mis sur un nuage le bon Dieu, gentil, tout sourire, placide, mais incapable de faire quoi que ce soit. Mais que nenni, hein, ceci n'est pas l'évangile, n'est-ce pas ? Le mot expiation, propitiation, substitution, rédemption n'a plus souvent aucun sens pour le monde moderne. Pour les exilés, au contraire, de retour à Jérusalem, conscients du jugement qui avait pesé sur eux à cause de leur rébellion contre Dieu, savent que pour s'approcher de Dieu, de ce Dieu trois fois saint, il faut que la question du péché soit réglée. Il faut que le péché soit expié. Il faut que quelqu'un subisse le jugement contre le péché. Et ce jugement doit être payé, soit par eux, soit par un substitut sacrifié à leur place. C'est dans l'Ancien Testament, ça, bien sûr, vous alliez me dire. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve la même chose. L'apôtre Paul dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Si le péché n'était pas puni, Dieu serait injuste et non saint. Et il n'y aurait aucun espoir de justice pour ce monde. Chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On est loin de la conscience occidentale, n'est-ce pas ? Mais les exilés savaient aussi que leur Dieu était suprêmement un Dieu de grâce, d'alliance et de miséricorde, qui les aimait et désirait leur pardonner. Le système sacrificiel ordonné par Dieu a montré que la grâce de Dieu n'est pas une grâce bon marché, c'est quelque chose qui coûte. Leur expérience en exil leur avait appris à quel point le péché et la rébellion étaient coûteux. Mais le système sacrificiel n'est que l'ombre des choses à venir et préparer le sacrifice ultime à venir, celui de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous, lui qui était l'agneau de Dieu, et nous l'avons chanté ce matin, n'est-ce pas ? Qui a été lié, cloué sur l'autel de la croix. Il est l'agneau immolé, tout comme le lion de Juda. Et vous savez, les plaies à ses mains, à ses pieds et à son côté sont toujours là. Et elles sont toujours visibles. Même s'il est le lion de Juda, il est l'agneau immolé sur le trône. Alors, j'ai parlé du péché. On va le laisser derrière. Le Seigneur s'en est occupé par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas croire que la vie chrétienne est centrée sur le péché. Elle est centrée sur le Sauveur et le salut qu'il donne. La foi chrétienne est une foi joyeuse. Comme la foi biblique du peuple hébreu. Et c'est le message du prophète Sophonie que je vous ai lu tout à l'heure. Si Dieu est fort quand il juge, il est puissant quand il délivre. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Si notre Seigneur a vaincu la mort, c'est aussi en vue de la joie. Car Dieu n'est pas un Dieu austère. Il n'est pas obnubilé par le péché. Mais il sait que le péché est l'obstacle à la joie. La joie est un fruit de l'esprit, une conséquence du salut, une source qui coule de la croix. C'est un signe du renouveau du cœur. C'est l'expression d'un salut bien compris. La joie chrétienne est l'expression d'un salut bien compris. Le peuple d'Israël, de retour d'exil, entonne des chants. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël. Ils font cela dans l'allégresse et dans la joie. On a un passage parallèle au psaume 118, c'est peut-être un petit peu long, on ne va pas le lire. Mais vous savez, ils se répondent. Ils chantent, ils se répondent. Oui, Dieu est bon. Et l'autre partie disait, car sa bonté durera toujours. La semaine dernière, on a fait la hola. C'est rare dans une église de faire une hola, c'est peut-être c'est consacré pour les arènes. Mais la semaine dernière, ça nous a conduit à faire la hola. Alors si je vous dis, le Seigneur est bon, qu'est-ce que vous allez me dire ? Car le Seigneur est bon. Car le Seigneur est bon. Amen, amen. Car le Seigneur est bon, amen. Cependant, avec la joie manifestée, on entend aussi des pleurs. On ne nous dit pas dans ce passage pourquoi les plus anciens pleurent. Il faut aller voir dans des passages parallèles pourquoi ces pleurs. Mais laissez-moi d'abord vous dire que dans le cours de nos vies rachetées, il y aura beaucoup de circonstances différentes où les pleurs et les rires se mêleront. Jusqu'au jour, oui, où les pleurs cesseront définitivement. C'est la promesse et c'est notre espérance. Et nous avons vécu cela, n'est-ce pas, cette année? L'Église qui se renouvelle n'est pas une Église triomphaliste. Elle est triomphante car Christ a triomphé de tous ses ennemis. L'Église triomphante peut pleurer en attendant la délivrance parce qu'elle est sauvée en espérance. Elle pleure quand elle souffre, elle pleure quand elle passe le deuil, elle pleure quand elle est persécutée, elle pleure quand elle réalise son imperfection, ses manques, ses faiblesses. Mais elle sait, au fond d'elle-même, que le Seigneur qui a commencé cette belle œuvre s'achèvera et l'achèvera. Et un jour, notre Église, imparfaite, faible, avec tous ses manques, eh bien cette Église, l'Église de Jésus-Christ, pas simplement celle d'ici, celle que le Seigneur connaît, sera belle, parfaite, sans rides. Ça, c'est notre promesse. Alors, des pleurs et des rires dans notre vie quotidienne, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et que nos larmes cessent. Mais dans le contexte de ce passage, pourquoi les pleurs ? Deux raisons peut-être, et Agé peut nous éclairer. Agé 2 et 3, chapitre 2, verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Les anciens qui avaient connu la gloire du temple de Salomon, lorsqu'ils revoient les ruines et juste les quelques pierres qui sont posées comme fondement, et qu'ils se rappellent ce qui s'était passé à l'époque du grand temple, eh bien ils pleurent. Peut-être sont-ils dans cette pensée. Ah, de mon temps, c'était mieux. Je commence à être un vieux de la vieille. Et je peux dire, et je peux tomber dans ce cas-là, ah, de mon temps, c'était mieux. Hein ? On faisait ça, on allait dans la rue avec des bannières. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes, pour les faire sortir, voilà. De mon jeune, on avait un coffee bar. Oh, maintenant, pour les faire venir au centre-ville, ils ont du mal à se garer. De mon temps, la même équipe de louanges faisait la louange. D'ailleurs, il y avait deux guitares et ça suffisait. Oh, maintenant, wow, faire la louange tous les dimanches, c'est pesant. Hein. De mon temps, c'était mieux. Je commence à pleurer. Non, je rigole. Mais chaque époque, frères et sœurs, est porteur d'avenir. Il n'y a pas un meilleur avant. Il y a un meilleur aujourd'hui. Il y a un bon aujourd'hui. Il n'y a rien à comparer, en fait. Chaque époque amène son lot de joie. Et la deuxième raison, peut-être un peu plus profonde et peut-être un peu plus spirituelle, je dirais, c'est que les pleurs et les larmes mêlées au rire font apparaître l'insuffisance de leur œuvre. Alors c'est vrai, si on lit Zacharie, il y a cette promesse. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Ne méprise pas les petits commencements, on dira à Zacharie. Voilà. Mais tout ceci est insuffisant si on ne voit pas l'accomplissement que nous avons la joie de voir. Dans le temple reconstruit par les exilés, embelli par le roi Hérode, il y aura un tout petit rien, un petit commencement qu'il ne faudra pas mépriser. Et ce petit rien, il a été pris dans les bras d'un homme qui s'appelle Siméon et qui a vu dans ce nouveau-né la gloire de Dieu. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ça c'est la lecture de l'évangile de Luc, il le reçut dans ses bras, Siméon reçut Jésus dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Oui, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la première. Parce que cette seconde maison a accueilli celui qui est la gloire de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Voilà la méditation de Esdras 3. Alors, la semaine prochaine, on va continuer Esdras 4. Donc, si vous avez le temps de lire, eh bien, lisez cela chez vous pour la semaine prochaine. Je vous invite à la prière et puis après quoi, j'inviterai Olivier pour nous diriger dans un temps de Sainte-Cène. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous enseigne, elle nous réveille notre cœur et nos pensées. Seigneur, nous avons vu, Seigneur, que la première chose à faire dans nos vies, c'est vraiment de reconstruire cet autel, de te remettre au centre, de remettre la croix au centre. Et Seigneur, de nous-mêmes, en reconnaissance, non pas pour obtenir salut, mais simplement en reconnaissance, Seigneur, t'offrir nos corps, nos cœurs, nos pensées en sacrifice pour toi. C'est ça notre culte raisonnable, comme dira l'apôtre Paul. Seigneur, nous nous offrons à toi parce que tu t'es offert à nous. Seigneur, tu es digne de recevoir toutes choses et nous l'avons lu, Seigneur, que toute la création entière célèbre, Seigneur, ton sacrifice. Célèbre l'agneau immolé sur le trône. Et nous aussi, Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer avec la joie parce que tu as obtenu pour nous le salut. Un salut total, complet. Nous ne méritons rien. Mais Seigneur, tu nous as aimés le premier et tu t'es donné pour nous. Seigneur, nous voulons vivre ce renouveau. Nous voulons remettre, Seigneur, la croix au centre de nos vies. Nous voulons remettre et vivre de cette joie comme fruit de la découverte de notre salut si glorieux. Un si grand salut encore, nous dit l'Épître aux Hébreux. Seigneur, à toi la gloire dans nos vies. Seigneur Jésus, tant que durera notre vie, là où se mêlent les larmes et les rires, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te voir en espérance. Seigneur, merci parce qu'un jour, Seigneur, toute larme cessera. Merci parce que la mort sera vaincue. Seigneur, et nous le savons, et nous l'espérons, et nous l'attendons. Seigneur, à toi la gloire, au milieu de nous. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Soyez bénis.